Cap-Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap-Cap thématique autour du grand âge et de l'accompagnement sous toutes ses formes de la vieillesse. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors si nous avons tout au long de notre vie une certitude, c'est bien celle de vieillir et puis de mourir. La grande affaire de la vie, aussi paradoxalement que cela puisse paraître, c'est donc de se préparer à notre fin, à ce moment où nos capacités physiques et mentales vont décliner plus ou moins rapidement. Et où, de facto, nous allons nous retrouver affaiblis et dépendants des autres, que ces autres que sont famille et société. Malgré la certitude que j'évoquais à l'instant, il est évident qu'un grand flou entoure nos fins de vie et que l'accompagnement que l'on est en droit d'attendre de nos semblables n'est pas toujours celui qui ferait honneur au genre humain. En tout cas, c'est mon avis, peut-être que mes interlocuteurs me contrediront tout à l'heure. Une tendance qui s'accélère au fur et à mesure que notre société évolue, alors évolue, je ne sais pas si elle évolue, mais enfin elle avance, et que les personnes âgées et dépendantes sont manifestement les laissées pour compte d'une société aujourd'hui tournée vers la production, la consommation, les plaisirs et le laisser-aller jouisseur et autres court-termismes. Une situation bien mise en lumière par la crise pandémique que nous connaissons, les plus faibles de tout poil ont été particulièrement affectés, donc les anciens qui, à leur corps défendant, ont été un peu le centre du sujet à un certain moment et peut-être même encore. Alors pour évoquer cette question, pour décoder cette situation des plus complexes, eh bien nous sommes aujourd'hui en compagnie de Claudette Brialix, qui est présidente de la FNAPAF, je traduis, Fédération nationale des associations et amis de personnes âgées et de leurs familles, ainsi que de Philippe Trousselard, qui a expérimenté pratiquement cette question à travers une expérience personnelle, mais qui est aussi, vous le savez, auditeur d'Esprit Occitanie, un des producteurs animateurs de notre station à travers son émission L'Oiseau Blanc, dans laquelle il traite de l'aéronautique. Claudette Brialix, Philippe Trousselard, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que Madame Brialix, j'ai bien défini le cadre de notre émission, selon vous ?
Tout à fait. Alors, tout d'abord, peut-être présenter un peu la FNAPAF pour savoir qui nous sommes. Alors, cette structure, donc une fédération, a été créée en 2005 suite à la crise caniculaire de 2003 qui avait créé une hécatombe et qui avait mis en lumière les problématiques des personnes âgées isolées et malheureusement souvent abandonnées à leur sort. Cette structure a donc été mise en place par trois associations sur divers lieux du territoire, en particulier la Bretagne, la région parisienne et la Mayenne, parce que ces associations s'étaient déjà préoccupées de la problématique dont nous parlerons dans le détail aujourd'hui. Pour moi-même, j'ai créé ma structure départementale dans le département de l'Indre en 2007, après des problèmes rencontrés en 2005-2006. J'ai rejoint la fédération dès 2007 pour en être vice-présidente en 2009 et depuis 2009 et présidente depuis 2018. La FNAPAF, c'est quoi ? Bien, c'est une courroie de transmission entre les situations de terrain que nous rencontrons via nos associations départementales, mais aussi nos adhérents individuels, puisque nous nous sommes ouverts aux adhérents individuels là où les secteurs n'ont pas d'association, et donc les pouvoirs publics, puisque nous sommes des interlocuteurs reconnus depuis des années, tant auprès des ministères, parlementaires et d'autres structures, grosses structures associatives, y compris celles qui gèrent des établissements, particulièrement dans le domaine non lucratif. Et donc, ce sont donc des courroies de transmission pour les problématiques, mais aussi force de proposition, c'est ce que nous attachons à soutenir.
Ça veut dire que vous êtes une fédération de différentes associations traitant de la même problématique et que vous en êtes un peu la courroie de transmission, le relais auprès des pouvoirs publics et des différentes administrations ou agences qui s'occupent de ces problèmes.
Oui, nous avons au départ commencé par des problématiques de terrain, puisque la plupart d'entre nous sont venus au monde associatif dans ce domaine et également à la fédération, parce que nous avions vécu des situations personnelles identiques à celles que vient de vivre M. Troulard d'ailleurs. Et donc, nous nous sommes ensuite étendus à des problématiques dépassant les établissements pour aller vers le domicile et pour aller aussi vers le soin, c'est-à-dire à la fois ce qui se passe pour nos personnes âgées dans le domaine hospitalier, particulièrement les unités de soins de longue durée, mais également une préoccupation par rapport, et là c'est un début, par rapport à la problématique des déserts médicaux et de la médecine libérale en général.
Alors, puisque vous avez évoqué le cas particulier de Philippe Troussard, on y reviendra bien évidemment plus longuement, mais en deux mots, Philippe, peut-être indiquer ce qui vous a conduit à vous frotter un peu à ce monde de la vieillesse.
Merci Jacques. Eh bien, écoutez, moi, pour ma part, comme vous l'avez dit en introduction et comme Claudette l'a dit, j'ai vécu un cas personnel. Et je crois que l'avantage, si je peux me permettre, d'une telle fédération dont Claudette Brialix est la présidente, c'est d'essayer de certes d'être nourri par les cas personnels, mais également, mais malgré ces cas personnels, de progresser plus au niveau national. Moi, mon cas personnel, il est relativement simple, comme je dirais tout cas malheureusement aujourd'hui. Bon, j'ai ma belle-mère qui est dans un EHPAD en banlieue toulousaine. Bon, qui a eu la COVID en début d'année et qui a été, qui a été mise en isolement. Elle était asymptomatique, mise en isolement pendant 3 semaines, changement de chambre avec accompagnement de soignants habillés en bonne, si je peux dire, en bonne et due forme. Ensuite, 2 semaines supplémentaires. Bon, si vous voulez, on arrive à quasiment à 5 semaines d'isolement, sans voir de famille, fonctionner avec des WhatsApp pour se voir, et tout cela venait compléter une période déjà difficile de fin 2020 avec par exemple, bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais des interdictions de visite des petites filles qui n'ont toujours pas vu leur arrière-grand-mère depuis le 25 août. Voilà, donc on se sent isolé, c'est-à-dire que chaque famille vit ses difficultés. Et je dirais que, bon, je pense que Claudette y reviendra tout à l'heure, mais le problème, c'est qu'il est très difficile de manifester son mécontentement parce qu'on est face à des structures qui ont déjà leurs problèmes. Hein. L'objet n'est pas pour nous de critiquer les directrices et directeurs d'EHPAD qui font certainement leur travail, on reviendra là-dessus. Mais ben, comment agir? Et puis moi, ben, je dirais, j'ai eu une petite impulsion par un article du Monde dans lequel ben, j'ai vu le nom de Claude Brialix intervenir au mois d'octobre 2020, si je ne me trompe pas. Et puis là-dessus, je m'étais permis de la contacter. J'ai découvert la fédération et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir un relais et surtout de sortir de mon cas personnel.
Merci Philippe. Alors, on a jusqu'ici évoqué la vieillesse, qui est l'objet même de notre émission, mais Claudette Brialix, la vieillesse, qu'est-ce que c'est exactement? Ça commence quand? Quand ça finit, ça nous le savons tous, mais ça commence quand? Et à partir de, ou de partir de quel état physique? Ou est-ce que c'est l'âge qui la détermine? Qu'en est-il exactement?
D'abord, la vieillesse, il faut savoir que dans la société que nous vivons actuellement, société du jeunisme, où il faut surtout, même quand on est âgé, savoir sauter en parachute ou danser le rock'n'roll, la vieillesse, lorsqu'elle devient un petit peu difficile, est difficilement comprise, et comme, entre guillemets, je vais vous paraître un peu sévère, mais pour certains, elle n'est pas belle à voir, on préfère la cacher. Et c'est un petit peu malheureusement aussi ce qu'on fait quelquefois pour le domaine du handicap. Qu'est-ce que c'est qu'être vieux ? Tout au long de sa vie, d'abord, on est toujours le vieux de quelqu'un. Que si vous parlez aux jeunes enfants, on est vieux à 40 ans. Quand vous êtes à 30 ans, vous devenez vieux un peu plus vieux. Mais ce dont il faut se rappeler, c'est que tant qu'on a la totalité de ses capacités intellectuelles, parce que c'est vrai que c'est ce qui est le plus préjudiciable au vieillissement quand ça ne va pas bien, même si en motricité, on a du mal, la vieillesse, ça reste une étape de vie. Et il faut arrêter de penser que ça n'est pas une étape de la vie. Certains, trop souvent encore, considèrent que la vieillesse, après tout, toutes les problématiques liées, eh bien, aux souffrances qui y sont liées, ben, ma foi, ce n'est qu'une fatalité de quelques temps, de quelques mois avant la fin. Donc, la vieillesse, pour moi, c'est une étape de vie, ça doit rester une étape dynamique, c'est une étape de transmission, autant qu'on le peut, car justement, c'est l'expérience de notre vie, qui n'est pas forcément meilleure ou mieux que d'autres, que nous pouvons transmettre et enrichir ainsi les générations qui nous suivent.
Voilà, c'est à peu près bien défini. Alors, lorsque l'on est vieux, et au sens que vous venez de donner, Claudette Brialix, on est finalement un peu diminué, on va sur une pente qui décline. Je ne sais plus qui avait dit que la vieillesse était un naufrage, alors il y a des bateaux.
C'était De Gaulle.
Eh bien, il y a des bateaux qui mettent plus de temps que d'autres à couler, et donc on peut être soit chez soi, et on va voir comment on est traité lorsqu'on est chez soi, soit être dans un établissement spécialisé dit EHPAD, qui peut être ou privé ou public, soit, si on est vraiment très très mal, être en hôpital. Alors, commençons peut-être par rester chez soi, ce qui est quand même peut-être pour beaucoup, et si on en a les moyens et la possibilité physique, la meilleure des solutions, parce que vieillir chez soi, dans son environnement, parfois auprès des siens, mais rarement, c'est quand même la meilleure formule. Et si on arrive à réussir à rester chez soi, comment fait-on ? Comment peut-on assurer le quotidien ? Parce qu'il y a toujours des tâches à faire, ménagères, mais il peut y avoir des courses, il peut y avoir des soins, il peut y avoir… Est-ce qu'il y a là des structures ? Est-ce qu'existe des structures ? Alors, je vous pose la question, mais je connais la réponse, et j'ai même d'ailleurs conseillé certaines structures sur la région Occitanie. Est-ce qu'il existe des structures qui vont vous apporter l'intendance nécessaire à la vie ?
Alors, tout d'abord, il est évident qu'on veut tous vieillir chez soi et mieux encore, y mourir si c'est possible. C'est de moins en moins vrai, hélas, puisque la plupart des gens aujourd'hui meurent à l'hôpital. Bon. Vieillir chez soi, c'est possible, mais ça se prépare. Et souvent, il faut veiller à préparer le vieillir chez soi avant que les problématiques ne se posent. Cela veut dire réfléchir qu'on peut avoir des soucis de santé qui fasse que votre maison ou votre appartement n'est plus aménagé comme il conviendrait pour vous faciliter justement la vie chez vous. Donc ça veut dire anticiper les aménagements nécessaires et ça, faisons-le en amont. En ce qui concerne le bien vieillir chez soi, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait une politique de prévention qui soit à la hauteur. Et donc malheureusement, nous ne sommes pas très forts en France dans le domaine de la prévention. Et il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Néanmoins, on peut déjà commencer à prévenir la vieillesse parce qu'il y a au niveau en particulier des structures municipales, les centres communaux d'action sociale, beaucoup d'actions qui permettent justement de s'entretenir. Exemple, des ateliers mémoire, des ateliers gymnastique douce, des ateliers informatiques, donc qui permettent en fait de rester dans le coup, si je puis dire, et en même temps de rester chez vous. En ce qui concerne le maintien chez soi, par contre, cela veut dire qu'il faut qu'il y ait les structures d'accompagnement nécessaires et suffisantes. Or, il y a eu un grand bouleversement positif, c'était en juillet 2001, lorsque la location personnalisée autonomie a été mise en place. Et là, effectivement, cela a ouvert une capacité donc à financer des aides à domicile et donc à faciliter l'accompagnement en aidant les personnes à financer les heures d'accompagnement dont elles avaient besoin chez elles. Alors, accompagnement par les structures d'aide à domicile, et c'est probablement ce que vous avez conseillé déjà en Occitanie. Vous avez l'aide à domicile qui est assurée aujourd'hui par souvent des structures associatives, donc de l'économie sociale et solidaire. Mais vous avez aussi maintenant une privatisation aussi dans le domaine de l'aide à domicile. Donc après, on en pense ce qu'on veut, mais l'état d'esprit n'est pas tout à fait le même. La difficulté aujourd'hui tient au fait que l'APA, créée en 2001, qui au départ était, enfin, donc, qui est gérée par les départements, mais pour lesquels les départements recevaient une dotation initiale de 70% par l'État du montant de la dépense n'en reçoivent plus aujourd'hui qu'à peine 30%. Donc, les finances des départements se tarissent, et se tarissant, mais ça veut dire qu'il faut serrer en quelque sorte les boulons. Donc, cela veut dire qu'on est de plus en plus donc difficile lorsqu'on fait l'évaluation de ce qu'on appelle la grille agir, c'est-à-dire la dépendance, les niveaux de dépendance qui vont déterminer ainsi le nombre d'heures qui vous seront accordées chaque mois par le département. Alors, cette difficulté aujourd'hui tient au fait que la plupart des départements, pour des raisons budgétaires, sont amenés à serrer la vis et que lorsqu'il y a des renouvellements d'APA antérieurs, quelquefois il y a moins d'heures, et là, l'APA initiale, donc la première allocation versée, le premier dossier accordé, est extrêmement sévère en matière justement d'évaluation. Voilà, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème des domiciles, c'est que pour bien vieillir chez soi, il faut avoir la capacité à avoir un médecin traitant. Or, comme vous le savez, dans de nombreuses régions aujourd'hui, il y a des déserts médicaux, et ainsi dans de nombreux départements, et particulièrement ruraux, mais n'oublions pas que ça arrive maintenant beaucoup aussi dans les banlieues, en région parisienne en particulier, dans les banlieues, les personnes n'ont plus de médecin traitant. Comment fait-on quand on
Pardon, je vous arrête, tu as des Brialix, effectivement, il y a des déserts médicaux, il y en a même en ville d'ailleurs, des déserts médicaux, mais il y a peut-être aussi un changement de mentalité des médecins. On voit quand même beaucoup de jeunes médecins qui ne veulent pas vivre comme leurs aînés, et ce n'est pas du tout, dans ma bouche, une critique, mais qui ont envie d'avoir une vie de famille, ce que peut-être nos anciens médecins n'avaient pas parce qu'ils étaient taillables et corvéables à merci, et qui aujourd'hui, ils prennent leur week-end, ils n'assurent plus les gardes, ou ils ne se déplacent plus. Et quand on est chez soi, on a envie que le médecin vienne, si on n'a pas les moyens d'y aller. Donc, comment essayer de bien vieillir avec un encadrement médical dans cette nouvelle donne du fonctionnement des médecins?
Alors, c'est une problématique qui a été soulevée à plusieurs reprises et que j'ai eu l'occasion personnellement de soulever lors de différentes auditions que j'ai pu avoir à l'Assemblée nationale, mais aussi au sein de structures, puisqu'il y a les conseils territoriaux de santé, au comptoir, entre autres, les ordres départementaux des médecins. Et également aussi l'occasion de discuter au travers de projets d'établissement avec des présidents de commissions médicales d'établissement qui soulèvent cette problématique des jeunes médecins et qui m'a fait dire aux parlementaires qu'il fallait en matière de réforme de l'enseignement de la médecine, ce qui m'a été d'ailleurs posé comme question, qu'il y ait une introduction à nouveau de qu'est-ce qu'être médecin. Et qu'est-ce que le côté humanitaire du rôle du médecin? Alors, il est bien évident qu'à chaque fois que j'ai répondu sur ces points, j'ai bien précisé que nous ne voulions plus, et nous ne comprenons bien que le médecin n'est pas taillable et corvéable à merci, mais à contrario, un médecin qui n'ouvre plus son cabinet à partir de 17h30, voire 18h, qui n'ouvre plus son cabinet le week-end, qui n'assure plus les gardes, qui n'assure pas le domicile, et qui en plus, quelquefois, lorsqu'ils ont des gens qui les appellent d'urgence, disent « je n'ai pas de place, vous n'avez qu'à aller au service des urgences de l'hôpital », il y a là un problème majeur qu'on ne peut pas nier. Ce que nous attendons des parlementaires, il faut savoir que beaucoup de parlementaires sont médecins, nous attendons justement qu'ils agissent sur ce point et qu'il y ait un infléchissement et en particulier une sélection différente à l'entrée en médecine qui tienne compte de ces données. Il y a une approche psychologique là qui doit être revue de façon approfondie.
C'est parce qu'ils sont au Parlement, évidemment, ils ne sont plus dans leur cabinet, donc ils ne peuvent pas soigner. Est-ce qu'il faut de l'argent pour bien vieillir? Vous parliez tout à l'heure d'aménagement de la maison, de la résidence. Pour ça, il faut des sous. Donc, il y en a qui en ont, et beaucoup plus qui n'en ont pas.
Alors, il y a des organismes qui peuvent aider les personnes qui ont de faibles revenus à aménager les logements. Par exemple, c'est l'ANAP, A-N-A-P, donc et également des structures départementales qui peuvent aider à financer, par exemple, les travaux d'aménagement, les salles de bain, entre autres. Hein. Il y a une publicité en ce moment, d'ailleurs, qui
oui,
se fait là-dessus, qui fait
voir.
Référence à cela. Et puis qui peut aussi permettre d'améliorer dans les maisons, par exemple, les fenêtres, les volets. Et puis il y a aussi, dans le cadre de l'APA, les possibilités de financer un gros investissement. Je pense en particulier aux personnes qui ont des escaliers dans les maisons. Et vous savez, pour mettre ces fameux escaliers, ces élévateurs, il y a des demandes qui peuvent être formulées dans le cadre de l'APA et qui permettent de recevoir une subvention unique, mais qui quand même prend une part importante et qui allège le financement de tels aménagements.
Comment peut-on faire? Moi, imaginez que je sois une personne âgée, ce qui va m'arriver puisque j'ai déjà un peu amorcé le chemin. Imaginez que je le sois, je ne suis pas très à l'aise avec Internet, je suis un peu isolé. Comment je vais pouvoir être renseigné sur ces différents dispositifs? Comment je vais pouvoir contacter les gens?
Alors, c'est vrai que c'est une difficulté. Alors, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de passer par le canal quand même d'une assistante sociale, quand vraiment on ne peut pas faire autrement. Et la meilleure solution pour trouver les références et qu'on vous donne un petit coup de main, c'est de passer finalement par la maison qui est la plus proche de chez nous, la maison commune, qui est la mairie ou l'hôtel de ville. C'est souvent là qu'on va trouver le relais ou le renseignement ou le contact ou la référence de l'assistante sociale qui va nous permettre d'avoir accès à ces informations. Néanmoins, il est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, alors ça fait aussi partie des points que la FNAPAF a déjà soulevés dans différentes instances, c'est que justement, beaucoup de gens aujourd'hui ne font même pas valoir leurs droits, parce que la complexité d'accès aux droits via Internet fait en sorte que beaucoup de personnes abandonnent ou ont peur de la complexité. Et aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a des personnes en nombre grandissant qui n'ont plus accès aux droits parce qu'elles ne le font plus valoir, parce qu'elles ne savent pas le faire.
Il paraît
Donc, là, il y a un travail énorme.
Ça peut arriver aussi dans le domaine du chômage, mais pas que. Toutes les aides et tous les programmes qui sont montés ne sont pas financièrement épuisés dans la mesure où les gens sont rebutés par la difficulté. Alors, est-ce que c'est voulu ou pas? Bon, je ne sais pas. On peut peut-être un peu des deux, non? Quel est votre avis?
Je vois que Philippe a un avis sur ce point. Peut-être lui demander.
Nous allons écouter. Alors, Philippe Trousse-Clark, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, ce que je voulais simplement faire comme remarque, et Jacques, vous avez parlé de l'isolement qui est en fait provoqué par ces questions informatique d'accès aux différents sites web. Non, une chose qui me préoccupe également, c'est le problème du handicap. C'est pareil que la vieillesse. Et malheureusement, je suis aussi concerné par cette situation-là. Et il est clair que le handicap, eh bien, si les familles ne sont pas là derrière, c'est extrêmement difficile d'avoir accès aux différents moyens et aux différentes aides. Et ce que je voulais compléter par rapport à la famille, on a parlé de l'isolement. Je crois que ce qu'il faut voir aussi aujourd'hui, c'est qu'il me semble que les anciens, que nous allons être bientôt, Jacques, comme vous le disiez tout à l'heure, ces anciens, il y a quand même un isolement des familles. Les familles sont éclatées et les anciens sont isolés. Et en complément de tout ça, donc les anciens se retrouvent isolés. Et je crois qu'il faut aussi se poser la question, mais on y reviendra, c'est que ben, les familles, on a peut-être moins, j'ose le dire, on est peut-être moins sensibilisé sur l'accompagnement des anciens qui souvent se retrouvent seuls, que ce soit en EHPAD ou ailleurs.
Il y a quand même un manque de solidarité dans nos civilisations de plus en plus prononcée. Qu'est-ce que vous devez le constater, Claudette Brialy?
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une évolution de la société, des générations qui nous suivent de façon très importante. D'abord, il y a un éclatement géographique des familles. Il n'y a plus la notion de proximité pour beaucoup qu'il y avait auparavant. D'autre part, aujourd'hui, vous savez que les familles ne sont pas stables, qu'elle se déstructure, qu'elle se restructure, voire même qu'elle se déstructure à nouveau.
Qu'elle se recompose, on parle de famille recomposée. Ce qui
voilà,
est
et en fait, tout cela n'est pas sans incidence sur déjà les problématiques qu'ils ont à gérer eux-mêmes avec la génération d'après, donc la génération d'avant passe après, si je puis dire. Donc ça, c'est une vraie difficulté. La deuxième difficulté tient au fait que la société a toujours considéré que la famille était l'affaire des femmes. Et qu'en fait, il est vrai, c'est devant deux hommes que je m'exprime, mais que la plupart du temps, ce sont les femmes qui ont assuré la continuité de la famille, de la naissance à la mort. Et que c'est souvent, en ce qui concerne les aidants, ce sont les femmes, les filles, les belles-filles, et souvent les conjointes, plus souvent que les conjointes, puisque souvent ce sont elles qui restent en dernier, qui assurent. Or, la situation de la femme a changé. La femme a exercé une profession et elle a pris pour beaucoup aussi une responsabilité professionnelle. Et ça ne l'a pas rendue, donc elle n'est plus disponible comme elle l'était, quand bien même elle le voudrait. Et s'il n'y a pas un partage dans le couple, là, nous allons aborder un sujet aussi un peu plus épineux, eh bien, il y aura forcément cette difficulté. Donc, cela tient aussi à cela. Il est vrai aussi que la différence dont vous parlez existe. Et curieusement, vous avez un pourcentage de familles, peut-être même 10%, et c'est même un peu faible encore, d'enfants qui se préoccupent peu de visiter leurs parents, là où ils sont. Et donc, et quelquefois, ça n'est pas toujours lié à la proximité. Il arrive que les enfants en proximité ne le fassent pas et que les enfants le plus éloignés le fassent. Voilà.
Oui, chacun reconnaîtra les siens. Est-ce qu'il y a des âges dans la vieillesse?
Alors, moi, je dirais qu'il n'y a pas d'âge. La vieillesse se détermine par rapport à la perte de capacité. Et justement, nous, ce que nous souhaitons et ce que nous défendons, c'est qu'il faut préserver les capacités au maximum, le plus longtemps possible. Donc, il n'y a pas d'âge à proprement parler. Vous pouvez être jeune à 90 ans si vous avez la capacité physique et intellectuelle maintenue. A contrario, vous avez aujourd'hui des Alzheimer de 75 ans qui sont complètement perdus. Donc, en fait, voilà. Alors, le constat, c'est que plus vous êtes âgé, plus les problématiques peuvent arriver. Mais malheureusement, dans certains cas, elles arrivent très tôt. Donc, on ne peut pas dire que l'âge est un déterminant dominant. Il en est un, bien sûr, mais il y a aussi les facteurs personnels à chacun.
Alors, nous parlons depuis déjà quasiment 30 minutes de sujets extrêmement graves et lourds. Je vous propose de nous aérer un peu l'esprit avec une pause musicale que vous avez choisie, Claudette Brialix, « Être quelque part » de Maxime Le Forestier. En un mot, pourquoi ce choix particulier pour cette émission?
Parce que d'abord, moi j'ai fait ma carrière en région parisienne, j'ai côtoyé beaucoup de gens venant d'ailleurs, j'ai beaucoup appris des gens venant d'ailleurs, puisque j'ai côtoyé des Africains, des Afghans, des Vietnamiens et autres, et les diverses provinces françaises qui ont chacune certaines particularités. Et donc c'est là qu'on s'aperçoit, quelqu'un être né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
Eh bien nous écoutons Maxime Le Forestier.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part,
c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
Voilà, c'était par Maxime Le Forestier, Être quelque part, le choix de Colette Brialix, la présidente de la Fédération nationale des associations et amis de personnes âgées et de leurs familles, que nous retrouvons, ainsi que Philippe Prousselard, qui lui est à Toulouse. Colette Brialix étant à Châteauroux, vous l'avez entendu, et vous nous excuserez si le son n'est pas parfait, nous ne sommes pas en studio. Éloignement géographique et Covid oblige, nous sommes par les moyens nouveaux que nous avons découverts à l'occasion de cette pandémie, justement. Pandémie à laquelle il faut bien venir, puisqu'on avait oublié un peu nos vieux dans leurs EHPAD. Alors je dis vieux, ce n'est pas péjoratif, mais ça correspond à ça. On les avait oubliés, puis là le Covid les a remis brutalement sur le devant de la scène, en lumière, parce que ben, finalement on les a enfermés, provoquant beaucoup de dégâts psychologiques et des familles qui souhaitaient les visiter. Et bien sûr des personnes qui étaient enfermées. Alors comment vous jugez, Claudette Brialix, la politique qui a été suivie par le gouvernement au sujet dans le domaine des EHPAD et à l'occasion du Covid?
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Covid est venu percuter une situation qui était déjà fortement dégradée. Il faut vous rappeler en intériorité des problématiques soulevées avec vigueur en 2017, puis une manifestation des personnels des EHPAD en 2018, et d'ailleurs des engagements du président Macron qui avait suivi, qui nous avait promis justement le grand soir et la loi grand âge pour 2019. Bon. Donc c'est venu percuter…
Nous n'avons pas eu.
Que nous n'avons pas eu. Mais on pourra y revenir. Hein. On nous l'a tellement promis, ça fait 20 ans qu'on nous l'a promis, hein. Donc pour différentes raisons. À partir du moment où on considère que c'est jamais le moment ou l'heure, et quand c'est le moment, il y a toujours un autre problème. Quand ça peut être le moment, il n'y a pas de financement, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc, la crise est venue percuter les EHPAD en difficulté. Doublement, puisque à la fois ça a touché les résidents qui étaient fragiles. Il faut savoir aujourd'hui que nos résidents d'EHPAD sont des gens fragiles. On vient en EHPAD quand on a épuisé toutes les solutions du domicile. Donc, quand on arrive en EHPAD, ça veut dire qu'on a énormément de problèmes de santé et qu'on est déjà fortement dégradé. Il faut savoir aussi que la situation est d'autant plus difficile que nous avons en EHPAD aujourd'hui beaucoup de résidents qui sont frappés par la maladie d'Alzheimer, mais aussi également par la maladie de Parkinson. Une autre maladie plus complexe qui réunit un petit peu les deux, qui est la maladie à corps de Lévy. Et puis aussi des effets d'esclérose en plaques. Alors, je vous dis tout ça parce qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi il y a une accentuation de ces maladies dégénératives. Ça nous enverrait à une autre question, mais c'est un constat. Vous pensez bien que des personnes qui sont touchées par de telles pathologies ont besoin d'un accompagnement important. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup de ces personnes très, très gravement atteintes auraient relevé des unités de soins de longue durée, qui sont des unités sanitaires plus renforcées, en particulier avec un suivi 24-24 de personnel soignant, mais qu'il y a eu une réforme qui a été introduite sous la mandate, enfin c'était à l'époque Madame Bachelot qui était ministre de la Santé, bien, il fallait faire des économies, de nombreux lits d'unités de soins de longue durée ont été supprimés, ce qui a ramené en EHPAD des gens qui en auraient relevé, mais avec un accompagnement bien inférieur. Donc voilà la situation. Le deuxième point, c'est que les personnels sont également touchés et que les EHPAD se sont retrouvés les derniers des derniers en matière de protection. Pas de masque, pas de blouse, pas de... N'oublions pas que beaucoup d'EHPAD aujourd'hui n'ont plus de médecins coordonnateurs ou des médecins coordonnateurs à temps très partiel. Je vous laisse imaginer la problématique lorsqu'elle survient comme ça, comme un ouragan. Dans mon département, le premier EHPAD qui a été touché, ça a été catastrophique. En quelques jours, il y a eu des décès en nombre très important.
Est-ce que vous faites une différence dans le traitement qui est fait auprès des résidents entre les EHPAD privés et les EHPAD publics ?
Écoutez, très franchement, les EHPAD privés, ce qui choque beaucoup, c'est que vu les sommes acquittées en matière de séjour par les résidents, on devrait avoir beaucoup mieux que ce qu'on a. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes en EHPAD privé, en matière d'accompagnement médical, donc de dotation de soins, vous avez la même chose que dans le public et dans le privé non lucratif. Parce que vous n'avez pas cité tout à l'heure, il y a également des EHPAD qui sont gérés par l'associatif, donc l'économie sociale et solidaire, donc un petit peu comme les services d'aide à domicile dont nous avons parlé auparavant. Les EHPAD privés ont la même dotation. On pourrait penser justement que compte tenu du fait que les frais de séjour sont considérables, on aurait pu apporter un petit plus, ma foi. Eh bien non.
Il faut payer les dirigeants de ces sociétés privées. La dame qui dirige, je ne sais plus quelle grande chaîne de maisons de retraite a été très substantiellement augmentée, je crois, récemment. Il faut bien
oui, c'est la directrice générale de Korian.
Voilà, on peut citer Korian, puisque vous l'avez cité, je rebondis. Voilà, il faut quand même que c'est… Et puis, il y a certainement des dividendes à servir aux actionnaires.
Donc... Ah, il faut un retour sur investissement important, de l'ordre de minimum 10%.
Oui, il faut rappeler aussi qu'à une certaine époque, il y avait des défiscalisations qui étaient offertes aux contribuables qui pouvaient acheter une chambre voilà, qui était louée ensuite. Une chambre. D'ailleurs, dans le terme technique, ça s'appelait une cellule, je crois que tout est dit.
Oui. Ben d'ailleurs, quelquefois, on nous a reproché d'assimiler les pads à la prison. Alors, il ne faudrait peut-être pas interpréter le terme de cellule.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, Donc, ces gens ont été enfermés, effectivement. Peut-être que Philippe là, va souhaiter intervenir parce que lui, il a eu cet exemple pratique de sa belle-mère qui a été absolument coupée du monde. Alors, peut-être que Philippe, vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour votre cas personnel.
Oui, Jacques, je vais l'expliquer, mais je dirais que ce que je voudrais quand même préciser avant ces explications, c'est mon souci de précaution par rapport aux gestionnaires d'EHPAD qui ont leurs difficultés. Claudette employait le mot d'ouragan. Donc, ce que je vais dire est un constat. Ce n'est pas source de d'accusations de gestion locale. Je crois que bon, on y reviendra, mais les difficultés sont fortes et variées. Non, mais les exemples concrets pour une famille sont bon. Alors il y a déjà les visites en chambre, par exemple. Ne pas pouvoir visiter la personne en chambre, c'est la chambre. Alors on dit la chambre, donc c'est le côté restrictif du lieu, mais c'est quand même le lieu personnel, c'est le lieu privatif de la personne qui est en EHPAD, et c'est là où on peut la rencontrer, et je dirais peut-être aussi lui faire quelques confidences, ne pas être perturbé par le bruit, par les bruits annexes. Donc c'est important de pouvoir rencontrer une personne dans ce lieu privatif et je dirais aussi agréable que possible. Bon, cela n'a pas été le cas depuis le mois d'août dernier pour ce qui nous concerne. Le deuxième exemple, bien évidemment, c'est aussi un exemple, c'est la visite des petits-enfants. Quand vous avez deux petites filles qui habitent en Bretagne, qui viennent de manière ponctuelle pendant les vacances et qui ne peuvent pas voir leur grand-mère à proximité, ne pas la voir du tout, c'est-à-dire que vous dites aux familles les visites des enfants sont interdites. Alors, qu'est-ce que le lien générationnel? C'est-à-dire qu'on coupe les générations, les arrière-grands-parents ne peuvent pas voir leurs petits, comme me disait ma belle-mère, mais je n'ai même pas vécu ça pendant la guerre. C'est quand même un mot important pour des personnes qui ont vécu la guerre de manière proche. Bon, alors bien évidemment, il y a aussi la question des sorties, c'est-à-dire pouvoir sortir. Alors bon, on le rappelait tout à l'heure, toutes les personnes en EHPAD n'ont pas la chance de pouvoir sortir et d'être accueillies dans leur famille, mais au moins pour ceux qui le peuvent et qui ont cette envie, je dirais, de proximité, pouvoir le faire. Ça n'a pas été possible. Donc, vous avez des personnes, alors c'est le cas personnel, vous avez des personnes qui rentrent dans un système de psychologique, de dégradation psychologique très forte. Et le dernier exemple, je m'arrêterai là-dessus parce que bon, ce ne sont que des exemples personnels, mais enfin qui nourrissent quand même le débat. Bon, les personnes âgées ont malheureusement souvent des difficultés auditives, sont appareillées. Bon, on sait la difficulté que comporte ces appareils auditifs, il faut les entretenir. Alors déjà, si la personne, ne parlant même pas des personnes âgées qui souvent négligent par elles-mêmes les perdre, etc., etc. Bon, c'est valable aussi pour les questions dentaires, mais nettoyer des appareils. Bon, vous arrivez, c'était le cas pour ce qui me concerne, à avoir une personne qui n'entend plus tout simplement parce que ses appareils ne sont plus nettoyés. Et encore une fois, ce n'est pas accuser les questions d'EHPAD. C'est extrêmement difficile. On voit bien que les familles, même quand on avait, je reviens sur ce qu'on disait un peu tout à l'heure, lorsqu'on avait des anciens à domicile, moi j'ai souvenir dans mon enfance d'avoir à proximité des anciens, on sait combien c'est difficile. Donc imaginons ce que ça peut être au niveau dans certains EHPAD qui d'ailleurs, et on ne l'a peut-être pas encore dit, mais certains ont un nombre de résidents extrêmement important, c'est-à-dire quand vous avez 80 voire 90 résidents dans votre établissement, c'est très difficile. Donc voilà, Jacques, mes exemples personnels. Alors que je rajouterais simplement que nous avons essayé de remettre au niveau national, bon, bien évidemment par l'intermédiaire de la FNAPEF. Il y a aussi bon des saisines au niveau de la défenseur des droits. Il y a eu des proximités également pour obtenir auprès du Conseil d'État, la libération des anciens par l'ordonnance du 3 mars. Voilà où nous en sommes.
J'ai quand même, ça, on l'a tous compris, on l'a vécu, il y a eu énormément, et merci Philippe ce témoignage, il y a eu énormément aussi d'autres témoignages qui allaient dans le même sens. Moi, je me pose une question, comment pouvait-on faire? Parce qu'il fallait à la fois protéger ces anciens, il fallait faire que, un, ils ne tombent pas malades pour eux, deuxièmement, qu'ils ne tombent pas malades pour aller grossir les services de réanimation qui n'avaient vraiment pas besoin de ça en plus. Donc, quelle solution? On était un peu dans une médecine, certes, le président de la République, enfin, à mon avis, à tort, mais c'est sa logorée habituelle, avait parlé du fait que nous étions en guerre, donc il y avait une santé de guerre. Est-ce que on avait un système de santé tellement affaibli, non pas affaibli, mais qui était tellement noyé qu'il fallait peut-être faire des choix drastiques. Et ce choix, ça a été de finalement d'enfermer ces gens dans leur chambre ou dans leur cellule. Est-ce qu'il y avait une autre solution possible compte tenu de l'état du pays et compte tenu de l'état du système de santé, Claudette Brialix?
Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur le problème qu'évoquait Philippe, à savoir ce qu'on a appelé le glissement des personnes âgées. Vous avez en EHPAD des personnes qui ont effectivement se sont laissées aller. Quand bien même elles n'étaient pas atteintes par le Covid, le contexte dans lequel elles se sont trouvées ne leur donnait plus, leur avait fait perdre le goût de vivre, donc le goût de vivre, le goût de manger, et donc se sont laissées glisser. Et ça a été dramatique pour les personnes Alzheimer, en particulier on a eu des témoignages de couples qui de fait ont dû en quelque sorte faire une forme de deuil pour celui qui avait sa raison, parce qu'il s'est trouvé devant un conjoint qui ne le reconnaissait plus. Puisque l'Alzheimer, ça passe énormément par le contact et par le toucher. Or, il n'y avait plus ni contact ni toucher. Donc, imaginez un petit peu ce deuil extrêmement particulier pour ces couples-là. Bon, y a le rapport parent-enfant, mais pour les couples, ça a été absolument dramatique. En ce qui concerne la situation de crise, dont l'ouragan dont je parlais tout à l'heure, il est évident que, comme vous le savez, nous n'étions pas préparés en matière de santé au volume des besoins en réanimation qui allaient se faire jour. Donc, à un moment donné, il faut bien le dire, personne ne dit qu'on a fait le tri, mais quand même, quelque part, il faudra bien qu'on fasse le bilan. À un moment donné, les hôpitaux débordés ont été amenés à prendre des décisions et à faire en sorte de demander aux EHPAD, dont on considérait qu'ils étaient médicalisés à tort, et ça justement, il y a un médecin qui l'a très bien dit, en plus c'est l'époux d'une ministre, c'est Mathias Wargon qui l'a très bien dit. On a toujours dit que les EHPAD étaient médicalisés, mais ils ne le sont pas, et c'est vrai, c'est une médicalisation très légère. Donc, en voulant considérer qu'ils l'étaient, on a dit, on va laisser les gens dans l'EHPAD, et donc, ainsi, on va soulager l'hôpital. Bon, il est vrai aussi que dans des décisions à prendre, il y a la notion du bénéfice-risque. Et qu'à un moment donné, se pose la question, et même dans d'autres circonstances, on est amené quelquefois à en parler, jusqu'à quel niveau de souffrance on accepte d'aller ou on accepte de laisser aller si on sait que le résultat pourrait être difficile. Bon, donc ça, c'est une décision complexe. On le discute actuellement dans d'autres domaines. Bon, donc, il y avait cette difficulté. Donc, pourquoi on a été confronté à cela? Ben, c'est parce qu'il y avait cette insuffisance de l'hôpital et puis ce fait de ne pas vouloir voir que les EHPAD, la médicalisation n'était que superficielle. Voilà. Moi, je voudrais dire des mots sur le personnel, justement. Il faut savoir que le système n'a tenu à l'hôpital, dans les EHPAD et à domicile, que parce que le personnel s'y est engagé totalement. Et ça, je pense qu'on ne les remerciera jamais assez et qu'il faudrait peut-être qu'au-delà de la considération qui leur est due, mais qui d'ailleurs, vous savez, la considération, ça ne dure jamais très longtemps. On applaudit pendant 2 mois, mais ça ne dure pas forcément longtemps après. Il faudrait peut-être aussi qu'on ait une revalorisation des carrières, des rémunérations et des conditions de travail. Ça passe par ça, et ça fait des années que ça dure. Et aujourd'hui, ces métiers-là ne trouvent plus preneur. Donc, vous avez des postes en EHPAD, vous avez des postes en domicile qui ne trouvent plus preneur. Donc, nous avons déjà une situation tendue et vous avez des postes vacants qui ne trouvent plus preneur. Voilà.
Est-ce que ça vous choquerait, Madame Brialix, si, à la lumière de ce que vous venez de dire et que je rappelle, les EHPAD ne sont plus médicalisés, le personnel étant sous-effectif, mal payé et les vocations se font logiquement de plus en plus rares, et en plus de ça, on y va de plus en plus tard. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que les EHPAD d'aujourd'hui, c'est ce qu'aux États-Unis, on appelle le couloir de la mort?
Ça peut le devenir par défaut de moyens. Bon, écoutez, beaucoup, très majoritairement quand même, essaient de maintenir ce qu'on appelle des lieux de vie. et donc que la vie soit présente le plus longtemps possible. Et il y a en particulier pour les animateurs qui travaillent dans les EHPAD, pour les psychologues qui travaillent dans les EHPAD, et pour beaucoup de directeurs d'EHPAD, cette volonté de faire. Mais le directeur d'EHPAD aujourd'hui, je vais vous dire, moi je n'en vis pas du tout, hein, parce que d'abord, là aussi, il y a de plus en plus de postes vacants, et les directions d'EHPAD ne trouvent plus preneurs. Pourquoi ? Dans la crise qui nous concerne, on les a laissés se débrouiller tout seuls, avec les familles en particulier. Parce que vous avez deux cas de familles. Vous avez les familles qui ont voulu maintenir le lien indispensable, mais vous avez aussi dans d'autres cas des familles qui disent « je veux le risque zéro ». Et si vous ne m'assurez pas le risque zéro, lequel risque zéro n'existe jamais, il va falloir qu'on en prenne conscience, ben je vous lance une procédure. Donc, les directeurs d'EHPAD sont entre les deux. Et on aurait attendu du gouvernement qu'il prenne ce qu'on appelle un arrêté qui définisse clairement les règles à appliquer, que ce ne soit pas qu'une recommandation, et qui, en fait, couvre les directeurs d'EHPAD, ne le laisse pas seul face à la sécurité juridique d'un côté ou d'un autre.
Ah, il semblerait que, finalement, les EHPAD ne soient pas mieux lotis que les hôpitaux, que notre système de santé, on le voit quand même un bien commun. Est-ce que vous pensez que cette crise du Covid va faire évoluer les choses ou que le monde d'avant, comme l'on dit, va revenir et ce sera le monde d'après, il sera identique ?
Ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'on n'en parle pas, mais qu'on continue à l'heure actuelle, alors qu'on dit le contraire et que Olivier Véran dit qu'il va bientôt mettre 10 000 lits de réa. Parallèlement à cela, on est en train de supprimer des lits. Il faut savoir qu'on continue à supprimer des lits. Et quand on supprime un lit, on supprime trois postes, puisqu'en général, il faut trois postes pour assurer un lit, en hôpital, je parle. Et donc, la suppression des lits continue, contrairement à ce qu'on dit.
On n'a pas parlé de l'influence ou du pouvoir des ARS dans notre débat. Comment vous jugez l'action des ARS ? Et plus globalement, est-ce que vous ne pensez pas que la marchandisation de la santé est une chose complètement nuisible au système. Le service public de la santé a été démantelé, comme d'autres d'ailleurs, hein, ce n'est pas le seul, comme d'autres, au nom d'une rentabilité qui n'a strictement rien à voir dans ce domaine-là. Est-ce que notre société ne se fourvoie pas lourdement comme sur d'autres thématiques, et je pourrais aborder celle qui m'est chère et que je travaille beaucoup, qui est celle de l'environnement, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir l'évidence et que l'on continue contre vents et marées dans une direction qui est une impasse.
C'est effectivement une impasse. Alors, l'hôpital a été considéré comme une entreprise, il ne devait pas être déficitaire ou de moins en moins. La réforme de la tarification qu'on connaît sous la tarification T2A a été malheureusement très mauvaise pour l'hôpital. Il faut savoir qu'il y a eu nous avions, nous, à l'époque, participé à des ateliers où on avait protesté vigoureusement qu'il y a eu une volonté de réforme de tarification des EHPAD. Alors, entendons-nous bien, quand on parle de tarification des EHPAD dont il était question, il n'a jamais été question pour le moment de réduire le reste à charge qui est imposé aux familles, qui est quand même de l'ordre de 2 000 € en moyenne, mois. Hein. Donc, par contre, tarification des EHPAD qui voulait tellement rationaliser qu'on voulait économiser sur la dotation soins et soulager les départements aussi sur la dotation APA, la dotation dépendance. Donc là, il y a ce problème majeur donc, de recherche. Et on a fait en sorte, dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens qu'on oppose, enfin, qui sont la base aujourd'hui de la gestion de l'ensemble des établissements, des EHPAD aussi, mais aussi des services d'aide à domicile, eh bien, la notion de gestion l'emporte sur la notion de service. Et là, il y a quand même énormément à faire. Et il est vrai que le problème, c'est qui met, entre guillemets, qui met de l'argent au pot. Je peux dire.
On s'est aperçu que l'argent qui était la grande chose, et on disait toujours au nom de l'argent, on ne peut pas faire, on ne fera pas ceci, on ne fera pas cela, on va réduire. Mais enfin, on s'est aperçu que les milliards pouvaient pleuvoir.
Et ils pleuvent actuellement. Ça dépend où ils pleuvent, les milliards. Hein ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin moi, peut-être, je suis une très mauvaise économiste, on me le dira, mais moi, quand j'ai vu pleuvoir les milliards au secours des banques en difficulté lors de la crise financière, je me suis dit, bon, alors, on en revient à cette fameuse réflexion. Alors, je ne sais pas, je suis, ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, sous la présidence Biden, pourrait être intéressante. Parce que est-ce qu'on ne va pas, est-ce qu'il ne faut pas reconsidérer justement la notion des grands équilibres, la notion de la dette, c'est tout ça qui pose problème. Et puis les milliards, qui abondent les milliards, vers qui va-t-on? Alors là, on entre dans un autre débat, hein, qui est le débat, vous le savez bien, hein, taxation. Ben,
Monsieur Biden, a priori, qui se retrouve à la tête d'un pays aux infrastructures complètement ruinées depuis une dizaine d'années, qui se retrouve avec une présidence antérieure, on ne va pas redonner son nom, on l'a oublié, on va l'oublier vite, on espère ne plus le revoir, qui a quand même considérablement affaibli le pays. Lui, il a dit, je pense qu'on a embrayé là-dessus les pays européens aussi, il a dit, on va augmenter l'impôt sur les sociétés, puis on va faire payer ceux qui ont des sous et qui jusque-là les ont cachés dans les paradis fiscaux. Donc, il y a quand même des solutions. Alors, c'est très agréable de voir un président américain, surtout de cet âge-là, parce qu'on nous a vanté la vigueur de la jeunesse, mais nous avons vu qu'elle pouvait être aussi une faillite. Et M. Biden, qui a de l'expérience humaine et politique, est peut-être en train de nous montrer la voie pour trouver de l'argent.
Tout à fait. Moi, je le pense. Et la jeunesse peut être finalement assez réactionnaire, au final. Mais nous avons aussi une problématique européenne dans ce domaine aussi. Bon, ben alors là, on sort du débat qui est le nôtre aujourd'hui.
Mais qui est finalement le socle de tout. Notre débat devrait nous conduire très logiquement à élargir la question et à se poser une question plus grave au niveau de notre société. Peut-être une remarque de Philippe sur cette question?
Oui, ben moi, ma remarque, elle est sur la différence entre les générations qu'on constate sur la capacité de chacune à financer sa propre vieillesse. Il me semble que nous, Jacques, Claudette, on est encore jeunes, mais je dirais
oui,
nous.
Oui.
Nous sommes d'accord. Hein. Nos anciens, nos parents, il me semble, enfin, ne serait-ce qu'un vécu personnel, mais je ne le pense pas, font partie de ces générations qui ont eu la chance de pouvoir, je dirais, avoir un travail qui leur a permis de financer, de mettre de côté quelque argent pour aujourd'hui financer leur propre vieillesse. C'est encore un peu le cas, je pense que c'est encore le cas de notre génération, mais la problématique, c'est les générations qui suivent. Et il faut se gérer comment feront même nos enfants aujourd'hui, ne parlons pas de nos petits-enfants d'après ce qu'on constate, pour financer ce troisième ou quatrième âge. On le rappelait tout à l'heure, pour financer 2000 euros par mois, qui pourra demain financer, et le pouvons-nous? Et je crois que se pose également la question des assurances, qui est un point également qui me préoccupe, des assurances dépendance, que souvent on finance. Moi, j'ai un exemple personnel, je parlais de ma belle-mère tout à l'heure, c'est un autre exemple, où vous avez des assurances dépendance qui ne sont basées que sur des critères de ce qu'on appelle le GIR, le groupe ISO ressources, GIR 1 ou GIR 2, et lorsque les personnes se retrouvent en EHPAD, finalement, ne peuvent pas bénéficier de ces assurances. Donc voilà, moi, ce qui me préoccupe, c'est la capacité de chaque famille à pouvoir financer ces sommes qui sont extrêmement importantes aujourd'hui pour pouvoir être hébergées en EHPAD.
Si vous me permettez, sur les assurances dépendance, justement, il y a une problématique. Et c'est bien pour cela que lorsque nous parlons, de la loi Grand Âge et de son financement, nous ne voulons pas, nous considérons que ce financement doit venir de la solidarité nationale, sous des formes qui sont à déterminer. Il y a eu différentes hypothèses, et si on fait un jour une autre émission, on pourra en parler. Mais les assurances, le financement privé, il faut effectivement faire très attention. S'il est très facile de souscrire une assurance privée, ouvrir le droit est beaucoup plus difficile. Et il est vrai, par exemple, qu'aujourd'hui, beaucoup d'assurances dépendance ont été souscrites de façon déjà incomplète. C'est-à-dire qu'en fait, on a dit qu'on va souscrire pour la dépendance totale. Or, il faut vraiment être Pas bien du tout. C'est-à-dire être un et deux, pratiquement gravataire pour toucher le droit. Pour la dépendance partielle, si on prend la grille AGIR qui a 6 niveaux, c'est le niveau 3 et 4. Et avec une évaluation malheureusement qui pourtant est celle qui est la plus problématique mais qui ne se fait pas bien aujourd'hui, c'est l'évaluation de la dépendance mentale, c'est-à-dire ceux qui ont une dégradation au titre des maladies cognitives. Donc, je dirais à vos auditeurs de faire extrêmement attention. D'ailleurs, plus on prend l'assurance dépendance âgée, plus elle est chère. Et puis, il faut bien regarder, en fait, le bénéfice-risque, là encore, si je puis dire. Voilà. Parce que c'est une assurance à perte. Hein. C'est comme l'assurance automobile.
Philippe et Claudette, nous sommes quasiment au bout de notre parcours radiophonique, si je puis dire. Moi, je vois une dernière question. Est-ce que dans la société qui est la nôtre, est-ce qu'avec les défis qui nous attendent demain, défis sociaux, défis économiques et surtout défis environnementaux, est-ce que l'entretien de nos anciens, dont nous allons être, hein, est-ce que ce n'est pas un luxe et une question que se posent uniquement les pays riches ? Et question subsidiaire, pardon, est-ce que finalement on va pouvoir maintenir cette assistance à nos anciens dans un proche avenir? Nous n'allons pas vers des lendemains qui chantent, nous le savons tous, il ne faut pas se le cacher. Donc est-ce que ce dont nous avons traité aujourd'hui, ce système que vous nous avez décrit, Claudette Brialix, est-ce qu'il a un avenir? Est-ce qu'un jour on ne nous dira pas, ben non, là on a vraiment plus les moyens et les priorités sont ailleurs?
Peut-être, Philippe avait levé la main, donc je le laisse
Oui, Claudette, merci. Je pense que parmi les défis que vous avez cités, Jacques, il y a un défi auquel je tiens, complémentaire, tout en respectant ceux que vous avez exprimés, qui est le défi humain. C'est-à-dire que le défi humain, c'est aussi le respect des générations, le respect de nos anciens. Et je dirais que dans ce domaine, chose de le croire, tout doit être possible. Alors, bien évidemment, c'est confronté aux autres, c'est à regarder avec les autres défis, mais je continue de croire en l'humain, je continue de croire à l'accompagnement humain. Je terminerai simplement par cet exemple de mon grand-père paternel qui est décédé de la grippe dans son lit, je dirais tranquillement, accompagné des siens. Voilà, il y a maintenant deux années.
Merci Philippe Claudette Brialix. Un mot de conclusion?
Oui, moi je veux croire à l'avenir. Et je veux croire au partage, je veux croire en l'humanité. Alors je ne dis pas que ce sera facile. Je crois qu'on devra tous faire un effort dans le domaine environnemental aussi. Mais je pense qu'il y a des marges. Il y a des marges, il y a des choix économiques, il y a des choix politiques, il y a des réorientations possibles. En ce qui concerne malheureusement les pays pauvres, si on prend en particulier l'Afrique, bon, il est vrai qu'il y a une autre forme de tradition et que là, l'Afrique malheureusement est en grande difficulté. Il y a par contre un rapport des générations dans la tradition africaine et qui est un rapport des générations que nous avons nous perdu depuis longtemps. Alors je ne dis pas qu'il était parfait parce que moi j'étais petite fille et j'ai connu plusieurs générations. Je suis issue du monde agricole, mes parents étaient agriculteurs. Et donc j'ai connu plusieurs générations à la maison. Je ne dis pas que c'était facile, mais si vous voulez, ça ressemble encore un peu à ce qui est maintenu en Afrique aujourd'hui. Mais moi, je ne veux pas désespérer de l'avenir. Je veux espérer parce que j'ai une descendance et je veux le mieux possible pour elle.
Bien, écoutez, nous allons terminer sur des paroles d'espoir. Nous n'avons pas de certitude, mais nous avons l'espoir. Nous avons la volonté aussi de peser pour que les choses puissent s'améliorer. Alors moi, je ne peux pas, je suis un homme du livre, ceux qui me connaissent le savent, donc je ne peux pas terminer une émission sans parler d'un livre, et je vais juste, compte tenu de l'heure, citer l'auteur et son titre. L'auteur, elle est bien connue, c'est une journaliste que vous pouvez entendre sur les antennes nationales, Laure Adler, et son livre « La voyageuse de nuit », où elle nous parle de ses 70 ans, de son expérience et de une expérience nourrie aussi par les visites qu'elle a faites dans différents endroits où nos anciens vivent ou essayent de survivre. Donc je vous le conseille, c'est un livre d'une lecture très agréable qui n'est pas du tout triste, ni nous permet simplement de nous projeter de réfléchir et peut-être de mieux nous préparer. Laure Adler, la voyageuse de nuit, j'ai malheureusement oublié l'éditeur, il me pardonnera. Voilà, nous sommes arrivés au bout de notre émission. J'ai retenu quand même une phrase là que vient de prononcer Claudette Bralix. Si on fait notre émission, nous dirons que, eh bien, je prends ça comme une invite. Finalement, et nous referons, Claudette Bralix et Philippe Trostard, nous referons notre émission parce que le sujet est important et nous sommes loin, très loin de l'avoir épuisé. Merci Claudette Bralix, la présidente de la FNAPAEP. J'espère que je l'ai bien prononcé.
Oui.
Merci à mon camarade de radio Philippe Trousselard. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec à la technique Yanis Boudin qui sera chargé de monter cette émission. Et vous pourrez la retrouver, enfin, essentiellement son podcast ainsi que ceux de toutes les autres émissions, sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à tous et à toutes. Merci de votre fidélité.